scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Épisode 42 pour le samedi 20 mars 2010 pour une didactique de l'esprit critique. Dans cet épisode, je vais discuter avec Richard, mon voisin, à propos de la thèse de doctorat zététique qu'il a réalisée. Je voudrais m'excuser pour un peu la qualité sonore parce qu'il y a des moments où il y a de la saturation, ce qui rend parfois certains passages de l'interview un peu, pénibles à écouter. Bon, c'est les aléas de l'enregistrement audio. Le jour où j'ai fait l'interview, Skype ne fonctionnait pas bien et je perdais, donc à certains moments je n'entendais plus Richard. Et donc je lui ai proposé de passer sur son téléphone fixe. Et ici, évidemment, on l'entend bien, mais parfois, quand il parle fort, il y a de la saturation, et donc c'est un peu désagréable. Malgré tout, l'interview est tout à fait écoutable, si vous faites l'effort de passer au-delà de ce petit problème. Je pense que cette interview est extrêmement intéressante, puisqu'on y fait aussi une sorte d'état des lieux de la zététique et du scepticisme scientifique en France. Et donc, je pense que elle vaut vraiment la peine d'être écoutée malgré ces quelques petits passages ou, disons, le son grésille quelque peu. Encore toutes mes excuses pour ce petit problème et j'espère que vous allez apprécier cette interview. Aujourd'hui, je suis avec Richard, mon voisin, qui est un zététicien et qui a réalisé la première thèse de zététique de l'histoire, qui s'appelle « Pour une didactique de l'esprit critique, zététique et utilisation des interstices pseudo-scientifiques dans les médias », qu'il a terminé en 2007, sous la direction de Patrick Lévy et Henri Brock. Alors, raconte-nous un peu, comment est-ce que quelqu'un est amené à faire une thèse sur la zététique ?
C'est un truc qui prend racine de longue date, hein. C'est quelque chose qui démarre avec, tu vois, les goûts personnels qu'on a quand on a 14-15 ans, puis qu'on commence à lire un petit peu de la littérature qui se veut fouillant les raisons des choses, comme dit mot zététique, quoi. Tu essaies de regarder un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière le paravent de la réalité, puis tu tombes un petit peu dans l'ésotérisme. Moi, je fais partie de ceux qui sont des croyants, a priori, tu vois. J'étais pendant bien 5 ou 6 ans, de l'âge de 15 ans à l'âge de 20 ans à peu près, j'adhérais à peu près à tout ce qui passait. J'avais un regard un peu circonspect, mais pas trop, tu vois. J'avais vraiment le goût à la chose. Et puis petit à petit, je me suis rendu compte quand même qu'il y avait des traits communs à quasiment toutes les théories un peu borderline, et des traits communs qui me plaisaient pas beaucoup. Jusqu'au jour, tu vois, où je tombe sur un bouquin d'Henri Brock. Donc même si son impact dans le monde sceptique est pas extraordinaire, en tout cas son impact sur moi était assez intéressant parce qu'il a réussi à balayer d'un coup 2-3 des croyances auxquelles j'adhérais fortement, mais juste avec une démarche archi simple. Et là ça m'a épaté, et puis ça m'a un peu, tu vois, j'étais un peu vexé quand même, je me suis dit merde, mais comment se fait-il que je n'ai pas pu éviter de tomber dans ces pièges-là. Et je me suis dit tiens, c'est vraiment une démarche intéressante. Et puis j'étais parti dans des études de physique-chimie. Après, j'ai tâté un peu de la philosophie. Après, je suis parti voyager. Et en partant voyager, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir, par rapport à des démarches de type pédagogique et didactique des sciences, je me suis dit, tiens, ce serait intéressant de voir si je vais traîner dans les pays d'Afrique noire. Est-ce qu'il y a une vraie réalité à cette histoire de magie, de sorcellerie locale? Est-ce que je pourrais pas jeter un œil un peu... À l'époque, j'aurais dit occidental, tu vois, sur la question. Puis je suis parti là-bas. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que non seulement le nombre de croyances qu'il y a en Guinée-Conakry, en l'occurrence, puisque c'était là où j'habitais, est-ce que le nombre de croyances qu'il y a là-bas était plus grand qu'en France? C'était pas si sûr que ça, en fait. Et je me suis rendu compte que non seulement le public en France, je le connaissais bien mieux que le public guinéen. Qui donc étais-je pour aller venir faire une démarche pédagogique quelconque avec des gens dont je connais pas tellement la culture de base? Et puis je me suis dit, mais en fait, finalement, je crois bien qu'il y a plus de croyances variées en France qu'en Guinée. Alors autant aller faire ça chez moi, aller embêter mes petits camarades chez moi. Mais j'ai commencé à faire de la didactique des sciences, ce qui est pas glorieux en France. Hein, la didactique des sciences, c'est plutôt poussif, je dirais. Et je me prive pas de le dire dans ma thèse. Mais en même temps, la démarche qui est, tu vois, de travailler sur qu'est-ce qui fait que des connaissances sont transmises d'un individu à un autre et que des savoirs dits savants sont transférés à des gens qui n'y connaissaient rien avant. Quels sont les blocages que ça peut créer, les obstacles que ça peut poser? Et je me suis dit, tiens, quels sont les obstacles qui peuvent se poser à l'esprit critique et puis à l'enseignement d'outils critique qui pourrait permettre potentiellement à des gens d'éviter de tomber dans des pièges relatifs aux manipulations liées au paranormal, aux pseudosciences, aux thérapies bizarres et à tout ce qui est intrusion spiritualiste en science. Voilà, donc c'est comme ça que ça s'est passé, tu vois, c'était un goût primal, je dirais, tu vois, qui faisait que j'ai essayé d'hypnotiser mon chat quand j'avais 14 ans, tu vois, j'essayais de me concentrer sur les gens dans le bus pour essayer de les faire se retourner, enfin tous ces petits trucs là. Puis c'est une démarche un peu scientifique sur la question, mais attends, ayons l'esprit ouvert, tu vois, mais pas au point d'avoir un trou dans le crâne, et comment je vais pouvoir trier le bon grain de livret. Et en fait, la démarche zététique, c'est vraiment pas, c'est pas un mot qui est essentiel, hein, du tout. Hein. Par contre, le scepticisme, c'est ça que c'est une notion que je trouve beaucoup plus générale et plus intéressante. Et la zététique, c'était enfin une démarche simple, avec des mots simples, des petits moyens mnémotechniques, tu vois, pour se rappeler de la vigilance, d'une sorte de vigilance, d'une sorte d'autodéfense intellectuelle permanente. Comme elle prenait pour objet des théories ou des affirmations qui émanaient du champ, du surnaturel, du paranormal, tu vois, l'attrait était déjà là, quoi. C'était facile après, pour en bossant avec des étudiants, de les rendre réceptifs à ce qu'on leur racontait à partir du moment où ça parlait de sujets qui étaient hyper fantasmagoriques, tout le monde avait baigné dans une culture de type X-Files, donc l'accroche était facile, tu vois. Donc dans un souci pédagogique, c'est vraiment beaucoup plus facile de faire triper les gens sur des fantômes que sur une solution aqueuse, tu vois. Donc j'avais l'objet stimulant, et j'avais enfin une démarche qui était plus ou moins formalisée, qui était intéressante, et qui pouvait faire des ponts avec une méthodologie scientifique classique. Et c'est pour ça que j'ai plongé dans la zététique, et je me suis dit, tiens, mais comment je pourrais l'incarner au mieux? Quel matériau je pourrais prendre pour créer de l'outillage? Et là, je me suis rendu compte du rôle des médias. En fait, petit à petit, je me suis rendu compte que c'est moins une. Je sais pas si je pourrais te le prouver ça, mais je peux. Ma sensation était que je pense que il y a moins une soif des gens à croire en des trucs bizarres qu'une volonté des médias de se servir de cette poule aux œufs d'or pour s'assurer de l'audience. Voilà. Et donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre du matériau, du vil matériau, tu vois, prendre ce que les gens du commun lisent, quoi, ce qu'il y a de plus de base, quoi. Donc les revues de vulgarisation, les émissions de télévision. Et regarder un peu comment, à partir d'une critique de des thèses extraordinaires présentées dans les médias généralistes, comment on pouvait arriver à créer un peu d'outillage simple, facile, illustré, qui, tout en faisant un peu sourire les gens, leur donne des bribes d'esprit critique et leur donne une sorte de sens araignée, comme Peter Parker, tu vois, quelque chose qui s'agite quand il y a un danger qui s'avance, quoi. Et donc j'ai commencé à décortiquer les médias. Et j'ai commencé à découper les sciences et vie, les sciences et avenir, la recherche, toutes les revues de France. J'ai regardé un petit peu dans les revues à côté, d'autres pays, mais pas trop. C'était juste pour mon intérêt personnel. Je me centrais vraiment sur les médias français. Puis j'ai regardé des émissions de télévision. Je me suis dit, tiens, comment on peut illustrer ce biais-là? Comment on peut illustrer ce problème-là? Comment on peut illustrer ce sophisme ici? Et je pars du principe que, en prenant des exemples simples tirés du quotidien, il n'y a pas mieux pour faire rentrer une notion même compliquée.
Je vais un peu remonter en arrière parce que tu as déjà abordé pas mal de choses, mais quand moi j'ai découvert donc la zététique durant mes études universitaires, bon, via les ouvrages d'Henri Brock, l'impression qu'on a, par exemple en lisant Le Paranormal, ses documents, ses hommes, ses méthodes, c'est que la zététique est une manière d'étudier le paranormal, quoi. C'est une méthode scientifique pour étudier le paranormal. Or, dans ta thèse, tu expliques bien qu'en fait, il y a une ambiguïté comme ça au départ, et puis que de cette méthode pour étudier le paranormal, c'est devenu plutôt ce que c'est aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de méthode de cours d'autodéfense intellectuelle. Tu peux un peu expliciter ce décalage qu'il y a eu à certains moments entre ces deux aspects, quoi.
Oui, je sais pas si... Si on doit faire vraiment l'historique de la zététique, tu vois, il faut vraiment remonter à il y a 2500 ans. Donc, c'est pas... Le mot zététique n'a le sens qu'on veut bien lui donner, si tu veux. À partir du moment où, dans les années 60... Mais je crois que ça a toujours été ça, en fait. C'est toujours été cette histoire de pédagogie, en fait, qui primait. Vu qu'il y avait personne qui se situait sur l'investigation des phénomènes paranormaux, eh ben, certains s'y sont mis, comme Brock, tu vois. Mais en fait, à des fins enseignementales, quoi qu'il arrive. Donc, même si c'était pas dit comme ça, ça a toujours été une pédagogie à l'esprit critique. Donc, voir les zététiciens comme des Ghostbusters, oui et non, si tu veux. Oui, dans le cadre associatif, ça a pu être ça, tu vois, ça peut être encore ça, même par exemple ici à Grenoble, en France, à l'Observatoire Zététique, il y a encore des investigations qui se font où on va guetter le fantôme, comme on dit. Mais ça reste pour l'accroche, ça reste pour... Parce que c'est des questions que les gens se posent, quoi. L'existence des fantômes est-elle avérée? Tu vois, les gens, ils partent de ça. Et après, l'idée, c'est de partir de ça pour les amener quand même à des choses un peu plus complexes. Et puis, les amener à comprendre qu'en fait, finalement, les outils qu'ils développent sur des choses aussi, qui pourraient paraître aussi puériles que l'existence des fantômes, encore que ça ne soit pas, hein, je pense pas, ça peut être les mêmes outils qui sont utilisés pour décortiquer le créationnisme et d'autres enjeux beaucoup plus politiques, tu vois, au sens noble du terme, quoi. Et donc, je pense que ça a toujours été ça, en fait. Ça a toujours été une démarche pédagogique, la zététique. Même le fait que Brock utilisait des mots simples, renomme des sophismes, ça a toujours été dans une volonté pédagogique. Oui, investigation du paranormal, mais comme prétexte, on va dire, tu vois. Je dirais comme prétexte, voilà.
Bon, évidemment, c'est vrai que moi, par exemple, je m'intéresse beaucoup maintenant à la psychologie des expériences inhabituelles avec Chris French, des gens comme ça qui me semblent vraiment faire ce que je pensais à l'époque être la zététique, et finalement, la zététique n'était pas ce que je pensais qu'elle était. Et finalement, en lisant ta thèse, j'ai enfin vu noir sur blanc, oui, non, en fait, la zététique, c'est pas une manière d'étudier le paranormal, vraiment, c'est une pédagogie de la méthode scientifique.
Bah, si tu appliques bien tous les préceptes qui sont édités, tu, en y rajoutant quelques bribes de psychologie cognitive et de psychologie sociale, un brin de philosophie, et puis tu y arrives à faire de l'investigation. Un peu d'histoire des sciences aussi. Tu peux arriver à faire une investigation correcte. Hein. Enfin, je pense pas qu'il y a pas un label d'investigateur du paranormal. Ça serait peut-être à créer, mais je sais pas si ça existe. Et puis, quand bien même, le champ du paranormal, c'est vraiment très très vaste, quoi. Je sais pas si t'en as déjà parlé dans ton balado, parce que j'ai pas écouté toutes les émissions, mais quand tu vois que derrière le mot paranormal, les gens sont capables de mettre les mancies, les arts divinatoires, les expériences surnaturelles, la parapsychologie. Quand tu demandes aux gens ce qu'ils voient derrière le mot paranormal, ils te mettent... Je fais ça avec les étudiants, ils te mettent... il y en a, ils te mettent les mathématiques, tu vois. Mais il y en a, ils te mettent les francs-maçons, il y en a, ils te mettent les Illuminati. Tout ce qui est, en fait, dit sous le chapeau, tu vois, un peu... Hein. C'est une catégorie sociolinguistique, quoi, le paranormal. C'est une manière d'en parler qui fait le paranormal. Donc, investigateur du paranormal, bof, ça a vraiment du sens. Ça voudrait dire investiguer des thérapies bizarres, ça voudrait dire investiguer des arts divinatoires, ça voudrait dire investiguer des dérives sectaires, ça voudrait dire, tu vois, investiguer tellement de choses différentes que je sais pas ce que ça veut dire. Par contre, si ça doit dénoter d'une ouverture d'esprit, ouais, ça c'est à cultiver, hein. C'est vrai, quand c'est une des critiques qui est souvent balancée à l'encontre des zététiciens, c'était que la science, les scientifiques, entre guillemets, la tour d'ivoire telle que les gens qui en sont exclus la représentent, la tour d'ivoire des scientifiques a du mal à se pencher sur des questions de ce genre-là. Et c'est vrai. C'est vrai que très souvent, c'est un regard un peu dédaigneux. Mais il y a des raisons à ça. Il y a une histoire qui est émaillée de fraude, de charlatanisme, de gens plus ou moins sérieux, et puis de gens autodidactes qui se réveillent un matin en croyant avoir redécouvert la pierre philosophale, tu vois. Et donc c'est très très dur de garder une suspension de jugement quand c'est la millième fois qu'on t'amène à un mouvement perpétuel, tu vois. Est-ce que c'est arrêter de suspendre son jugement quand l'Académie des sciences en France renonce à recenser les mouvements perpétuels, tu vois. Au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude qui se fait, mais qui se mélange aussi avec une petite forme d'arrogance. Et c'est vrai que les choses novatrices ont souvent du mal à passer. Et donc, si tant est qu'il y ait un jour un phénomène de type paranormal qui devait être découvert, il y aurait peut-être quelques résistances. Mais c'est là où nous, on rentre en jeu. C'est là où toi, ou moi, ou d'autres, on a un rôle à jouer. Hein. C'est que si quelque chose existe, moi, personnellement, en tout cas, je serais ravi que quelque chose de bizarre existe. Et si on pouvait mettre la main dessus, je serais le premier à le chanter et à le crier au effort, tu vois. Donc en ce sens-là, oui, je suis un investigateur du paranormal. Soit je ne le trouve pas et j'en fais un objet pédagogique de la démarche que j'ai utilisée, soit je le trouve et dans ce cas-là, on devient parapsychologue, toi et moi.
Le concept que tu utilises beaucoup dans qui est au centre vraiment de ta thèse, c'est les interstices pseudo-scientifiques. Tu peux nous expliquer un peu en quoi consiste ce concept?
Oui, le concept, c'est de se dire, que dans les discours, il y a plein de petits trous. Dans les textes, dans les articles, dans la manière de mettre en scène l'information, il y a plein de petites lacunes, des petits trous, quoi, tu vois, dans lesquels peuvent se loger. Quand quelqu'un a envie d'entendre quelque chose, si le discours il n'est pas bien clair, il aura tendance à faire sens avec, tu vois. Enfin, ça rejoint tous les thèmes des effets liés au psychologue Forer et tout ça, l'idée de que ça fera sens. Si on n'en est pas béton sur la manière de présenter une information, et si on y laisse des interstices, c'est pas impossible que les gens comprennent mal ce qui soit dit, ou en tout cas le réinterprètent à leur sauce. Donc bannissons les interstices, étudions-les, puis essayons de les circonscrire, et on devrait arriver à obtenir une manière de présenter les choses qui ne laisse pas prise à du fantasme. Parce que la démarche, c'est non pas que le fantasme soit quelque chose de mauvais en soi, enfin encore, le mot fantasme, c'est un mot très psychanalytique, je suis pas très fan, mais en tout cas la fantasmagorie, j'ai rien contre, mais dans le champ des sciences, si on part du principe que la science c'est une manière de regarder le monde tel qu'il est et pas tel qu'on aimerait qu'il soit, je pense que la fantasmagorie n'a rien à faire dans le champ des sciences. Donc pour la bannir, faisons attention à la manière qu'on a de présenter les résultats ou les hypothèses. Vu que les médias se servent énormément de scénarisation, ils se servent énormément d'impact, tu vois, de méthodes de scoop, dans le but d'être vendu, hein, dans le but marketing, quoi. Les interstices de ce genre fleurissent de partout, et c'est comme ça que très souvent est appâté le lecteur, quoi.
Tu utilises le vocabulaire de la zététique, donc la terminologie comment développée par Henri Brock au cours des années. Visiblement, tu le disais avant, cette terminologie te parle un peu, alors que moi, subjectivement, c'est purement subjectif, j'ai jamais vraiment adoré cette terminologie. Je trouvais que un peu la formulation philosophique classique comme argument ad hominem ou non sequitur, des choses comme ça, je me demandais un peu, est-ce que vraiment changer de la façon dont Henri Brock a fait pour nommer effet et les effets te paraît je suppose qu'elle te paraît une bonne idée, mais tu pourrais un peu développer là-dessus?
Ouais, c'est pas tant que ce soit une bonne idée, c'est que c'était la seule que j'ai trouvée à l'époque, tu vois. Mais bon, je comprends tes réticences. Franchement, je comprends tes réticences. Tes réticences, en plus, je les rejoins au moins sur un point, c'est que la liste des effets ou des sophismes qu'a présenté Henri Brock, donc elle n'est pas homogène. Elle n'est pas homogène et ça m'a posé pas mal de problèmes pour essayer de faire une classification et faire en sorte que les choses se recoupent pas entre elles, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. C'était un peu le bazar. Mais bon, au moins, c'était pratique et même si j'ai pas d'études qui permettent de montrer qu'il est plus facile de garder à l'esprit un effet cigogne qu'un cum hoc ergo propter hoc, j'en suis intimement convaincu. Mais je veux bien revoir mon jugement, hein. Mais j'ai bien peur que les locutions latines et les non-sophismes classiques soient moins évidents. J'avais relu sur ton blog, tu disais, si on prend le temps aux gens de leur expliquer, c'est vrai que non-sequitur, ils peuvent comprendre assez facilement. Le problème, c'est que personne ne leur explique ça. C'est très très difficile à comprendre. En plus, le latin, ça distancie un peu, tu sais, c'est comme la messe, tu vois, tu te sens un peu plus distant. Comme c'est en latin, tu te dis mais que ça va être compliqué, que c'est quelque chose qui est réservé à une élite. Et je pense que c'est un peu élitiste quand même, tous ces mots-là, le post hoc, ergo propter hoc. Tu te retournes pour savoir qui a dit ça, quoi, tellement c'est compliqué. Et je pense que quand tu l'utilises dans la vie courante, personne te suit, quoi. Si tu mets une image amusante sur la question, sur le sophisme, je pense sincèrement que c'est beaucoup plus facile après pour exercer son esprit critique dans la vie, tu vois, en se rappelant, tiens, ah, mais ça, c'est ce biais-là, tu vois, ça, c'est ce biais-là, ici. Et si la formulation est simple, je pense qu'elle est pédagogiquement plus intéressante. Donc, je pense que ça, c'est une force chez Henri Brock, hein, c'est de mettre des noms. Alors, il les a pas tous bien choisis, il les a pas tous nommés, et il y en a certains pour lesquels, tu vois, par exemple, le post-hoc ergo propter hoc, typiquement, j'ai pas trouvé de mots. Alors j'ai quelques exemples qui sont dans mes cours que j'utilise, tu vois, mais j'ai pas encore trouvé de mots qui me permettent de désigner ça autrement que par cette locution latine. Mais ça m'emmerde, parce que je vois bien que les étudiants, ils savent pas l'écrire. Quand bien même tu leur répètes quatre fois, ils font trois fautes de latin, tu vois, dedans. Et puis ils vont pas faire ah tiens un cum hoc ergo propter hoc, tu vois, ça leur arrive pas. Ça. Alors que sur un effet quelconque, ça marche. Je vois qu'on peut. Mais peut-être que je valide subjectivement mon propos, hein, mais j'ai l'impression, non prouvé, qu'utiliser des termes simples est pédagogiquement beaucoup plus simple et illustré aussi, avec des images, tu vois, une image, quelque chose qui va tout de suite te faire sauter à l'esprit que tel biais et tel biais fonctionnent comme ça. Donc tu vois, quand je veux construire un argument d'autorité lié à l'ancestralité d'une théorie, quand on me dit mais ça a 2000 ans, c'est forcé que si ça fait 2000 ans que les gens y croient, c'est que ça doit être bien, je sais pas, j'ai tendance à préférer parler de de vieux pots, tu vois, l'effet vieux pots, dans la mesure où c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, tu vois, enfin, des images, quoi, des choses un peu illustrées comme ça. Prise dans la culture classique. Un qui marche très bien, tiens, juste pour ta gouverne, sache que chez les étudiants, c'est un qui marche très bien, c'est un truc que j'ai piqué à Shermer, qui est Michael Shermer, donc dans Pourquoi les gens croient-ils en des choses étranges, bouquin non traduit d'ailleurs, je crois, en français, qui
s'appelle. Non, il n'est pas traduit.
Ouais, Why People Believe Weird Things. Et ben, il utilise le syndrome de l'insubmersible canard de bain en plastique, tu vois, pour parler de la résistance aux preuves, comment les gens vont avoir tendance à résoudre leur dissonance cognitive en balayant les faits qui leur sont proposés. Et ben, ce syndrome de l'insubmersible canard de bain en plastique, les étudiants grenoblois sont fans. Il l'utilise tout le temps, il leur place tout le temps, dans tous les dossiers, tu l'as trois fois, avec moult dessins. Alors que si je leur dis résolution tendancieuse de dissonance cognitive, ils ont du mal, tu vois. Bon, je sais pas si je vais te convaincre, hein, mais je pense que c'est propice pédagogiquement ce genre de terminologie. Donc merci à Henri pour ça, mais elle est pas très bien faite, sa catégorisation. Je vais essayer d'en faire quelque chose, moi, je vais essayer de proposer une petite liste un peu tirée de ma thèse. J'aurais dû le faire tout de suite après, puis j'ai pas eu bien le temps. Et je vais essayer d'y remédier. Tu me diras ce que t'en penses à partir de ce moment-là.
C'est vrai que, par exemple, en philo, on voit bien, enfin, moi, on a des cours de logique, mais évidemment, c'est rapidement des cours de logique formalisée. C'est toujours assez amusant de se dire, oui, mais en fait, on forme les élèves à des, en philo, par exemple, à de la logique, mais vraiment des trucs totalement déconnectés de la vie réelle. Mais on oublie de les former à la logique, à une logique un peu plus terre à terre, qui puisse s'appliquer à la vie de tous les jours. J'ai l'impression que la zététique a un peu cette vocation de ramener un peu certains principes de logique et dire, bon, on peut l'appliquer dans la vie de tous les jours, ça peut être des outils pratiques et pas juste pour voyager dans les hautes sphères de la logique formalisée, quoi.
C'est clair. Surtout que très peu de gens l'abordent, hein, la logique formalisée, hein. Très très peu de gens. Déjà, tu vois même pas, enfin en France, non, je parle en France, hein, dans le système français, t'as une année de terminale, l'année d'avant le baccalauréat, où on te fait un peu de philo, tu fais pas de logique formelle, quoi. Et puis après, tu revois ça que si tu fais des études spécifiques, quoi. Donc pour les autres, il y aura rien du tout sur la question, quoi. Les étudiants arrivent avec, et moi le premier, hein, on arrive avec un bagage à l'université, un bagage philosophique et épistémologique très proche de zéro, quoi.
C'est un peu ça le problème. On a l'impression, étonnamment, disons, que le système scolaire échoue à enseigner la méthode scientifique à leurs élèves, alors qu'on a des cours, au secondaire, les gens ont des cours de sciences, des cours de philo, mais bizarrement, comme tu dis, en fin de parcours, les connaissances vraiment épistémologiques semblent, comme tu dis, proches de zéro quand ils arrivent à l'UNIF. Hein, c'est un peu bizarre, c'est un constat un peu étonnant.
Oui et non. Au début, c'est un peu étonnant. Puis en fait, après, quand tu regardes de près, tu regardes un peu quelles sont les résistances à ça dans le corps des enseignants. Alors là, je vais rentrer dans une critique un peu plus politique aussi de l'école. On ne peut pas comprendre ce problème-là sans se pencher sur ce problème politique que soulève l'école. À l'école, ce qu'on te demande, c'est de répondre à des questions lors d'un examen. Point. On te demande de faire plaisir à l'enseignant en restituant des connaissances qu'il t'a données. Si l'enseignant lui-même est déjà persuadé que dans son discours, l'esprit critique passe, ce qui est souvent le cas en plus, hein, parce que la plupart du temps, les blocages, moi, que j'ai eu à parler d'esprit critique ou didactique, c'était des réponses du type « Mais voyons, mais nous sommes très bien formés, nous le faisons déjà. » Dans les instituts de formation pour les professeurs des écoles, par exemple, on m'a répondu « Mais nous le faisons déjà, l'enseignement à l'esprit critique. » Alors, tu as envie de leur dire « Mais comment se fait-il alors que tous les gens qui sortent de chez vous sont la catégorie sociale la plus propre à adhérer à des théories de type pseudo-scientifique si vous faites bien votre boulot, quoi ?» Le problème, c'est que les gens, ils raisonnent avec l'esprit critique qu'ils pensent avoir, hein, donc ils pensent en avoir assez, tu vois, vu que c'est avec ça qu'ils réfléchissent. Donc il y a ça, et il y a le fait aussi qu'on nous bêtifie à l'école, dans le sens où on t'apprend à répondre à une exigence, quoi. On t'apprend à répondre à une insertion sociale, et pour répondre à cette insertion sociale, on va t'apprendre à répondre à des questions bateaux, quoi. Donc des gens se mettent à bachoter, et l'essentiel du travail d'un élève de dernière année du lycée, c'est d'apprendre à répondre aux questions, pas d'apprendre à comprendre les mécanismes en jeu. Donc il n'y a rien, en fait, de basé sur la méthode scientifique. Rien. Même quand on feint de nous faire croire qu'on découvre, je sais pas, la loi d'Ohm, par exemple, on sait tous très bien ce que le professeur attend de nous, et on veut lui faire plaisir, on va lui trouver une belle droite, on va lui faire ça très bien. Mais tu vois, personne ne pige la démarche derrière. Puis il n'y a pas le temps, de toute façon. Il n'y a pas le temps. Avec en plus les réductions de postes et tout, les professeurs sont débordés. Quand bien même ils voudraient le faire, ils n'ont pas le temps. J'ai des amis qui me demandent des fois, tiens, j'aimerais bien introduire l'esprit critique dans mes cours. Puis au bout d'un moment, j'en vois qu'ils renoncent. De toute façon, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Et c'est un peu, tu vois, c'est un peu le même problème. C'est un parallèle que je vais faire qui est peut-être oiseux, hein, tu me dis ce que t'en penses, mais je dirais que c'est un problème qui est très très proche de celui des biens publics de santé. Très souvent, des gens qui vont contester qui vont se tourner vers des thérapies alternatives, par exemple, sont des gens qui contestent le système actuel froid, très peu de temps consacré aux patients, à l'hôpital c'est horrible, les gens sont engorgés dans les urgences. On les appelle peut-être pas par des numéros, mais en tout cas par leur pathologie. On n'a pas le temps de créer un lien social et tout. Donc les gens, en recherche d'un lien social et d'une démarche plus douce avec eux, sont capables de se tourner vers des thérapies qui ne fonctionnent pas, plutôt que de rester dans un service public de santé qui s'est appauvri avec le temps. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pareil, quoi, avec la méthode scientifique qui est passée à l'as complètement de l'enseignement, mais parce que manque de temps, manque de moyens et une pression assez forte à l'insertion dans le travail juste après, quoi. C'est tragique, hein. C'est vraiment tragique. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous surpris. Enfin, je crois qu'on fait semblant d'être surpris et de dire, mais c'est fou, l'école nous forme pas à l'esprit critique. Mais, je veux dire, il y a ni les moyens, ni le temps, ni une vraie volonté de le faire. Et ce qui pose la question de à quoi sert l'école. Et en vrai, j'emprunte ça à la sociologie classique, hein. Enfin, la sociologie critique. Que moi j'appelle classique, mais qui était peut-être pas si classique que ça, qui est que l'école reproduit les classes sociales et elle ne sert pas tant à enseigner, à apprendre des choses aux gens, qu'à les rendre aptes à trouver un travail dans notre monde. Donc on peut pas être surpris que l'esprit critique. Je te donne une anecdote quand même. Un jour, j'étais avec mon ami Stanislas Sanchak, que tu connais peut-être de nom, qui écrit les fameux éditos de notre newsletter à l'OZ. Et Stanislas, qui est professeur de sciences physiques en lycée. Et moi, on présente la zététique comme démarche pédagogique à des inspecteurs pédagogiques, c'est-à-dire les gens qui viennent inspecter les professeurs quand ils sont en cours. Et on leur explique la démarche. Et une des réactions a été, quand on a expliqué la démarche sur l'esprit critique, une des réactions d'un des inspecteurs, un ancien, dit oui, mais quand même, si on forme trop les élèves à l'esprit critique, après ils risquent de contester les cours, et après ils seront intenables. tu vois, une espèce de démarche comme ça. Alors là, on est tombé des nues, quoi. J'ai cru que Stanislas allait s'évanouir et ou partir en claquant la porte, tu vois. Parce que nous, on s'en fiche que les élèves, ils contestent, si tu veux, le système. Parce que je crois qu'il est contestable, ce système. C'est ça qui est terrible, c'est que le système tel qu'il est fait actuellement, il est vraiment contestable. Donc, esprit critique, je pense que ça fait partie d'une éducation populaire qui se fera difficilement à l'école. À la fac, tu vois, j'ai un peu de latitude pour le faire à l'université, parce que tu peux créer des petites brèches, tu peux prendre des prétextes, tu peux prendre la méthode scientifique, l'épistémologie, l'histoire des sciences. Comme les contenus sont pas complètement arrêtés en France, il n'y a pas de bulletin officiel qui décrive les contenus que tu es obligé d'aborder. Que tu sois chimiste, biologiste, philosophe, tu peux arriver à greffer des contenus là-dessus. Mais à l'école, c'est impossible, quoi. C'est impossible. Donc, on peut plus être surpris, en fait, qu'un étudiant de première année arrive avec un bagage proche de zéro en termes d'esprit critique ou d'épistémologie des sciences, quoi. En fait, on peut pas être surpris de ça.
Là où j'aurais tendance un peu à prendre mes distances par rapport à ce que tu dis, c'est simplement, quoi. Je crois que c'est indéniable, en tout cas, que les médias ou le système scolaire jouent un rôle dans la propagation de ce genre d'idées. Mais je pense aussi qu'il y a des facteurs de type psychologique, vraiment des prédispositions en fait aux gens à Michael Shermer par exemple, avec beaucoup de la paternicité, le fait qu'on a tendance naturellement à chercher des patterns, donc des liens entre les choses, et que cette programmation un peu qu'on a dans le système cognitif, notre façon de penser que les humains ont, c'est ce qui génère par exemple la croyance dans les théories de la conspiration, etc. Donc j'ai un peu l'impression, enfin moi j'aurais tendance à défendre l'idée que il y a quand même les croyances de ce type. Un, on est prédisposé à les avoir, et forcément, donc, enseigner la pensée critique, c'est un peu lutter contre les prédispositions des gens. Et deux, aussi, ils ont probablement souvent un rôle sociologique à jouer. Et donc, on lutte contre le rôle sociologique que ces croyances jouent dans la société.
Donc, c'est un double courant auquel il faut s'opposer. Mais je suis d'accord avec toi, hein, moi. Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que très souvent, dans les médias, quand on met en cause les médias sur leur rôle dans la propagation d'une théorie fausse ou d'une croyance, ils te répondent oui, mais les gens aiment bien ça. C'est une soif immanente de l'esprit humain. C'est toujours cet argument-là qu'ils utilisent qui n'est certes pas faux. Hein. Moi, je pense comme toi hein, qu'il y a un goût de l'esprit humain pour les solutions simples, les corrélations hâtives et la paternicité. Vraiment, je pense la même chose que toi. Mais ce qui m'ennuie, c'est que les autres facteurs type médiatique, type le merchandising mercatique des médias, là, tout ce qui fait que c'est qui pour vendre, ils sont capables d'utiliser toutes les ficelles possibles de apéritives, tu vois, qui vont donner le goût aux gens d'aller pencher dans leur revue ou regarder leur émission. Et ben à chaque fois ils utilisent ça. Oui, mais voyez, on fait ça. Oui, c'est peut-être pas très bien, mais les bonnes annonces aussi m'ont sorti ça. Oui, c'est peut-être pas très bien, mais les gens ils aiment bien. Oui, effectivement, ce qu'on dit c'est peut-être pas complètement exact, mais les gens ils préfèrent ça, ils aiment bien. Et donc le prétexte, enfin tu vois, on fait reposer ça toujours sur l'envie des gens ou sur le besoin des gens. Et ça m'énerve. C'est-à-dire, je veux m'inscrire en faux contre ça. Ce n'est pas seulement l'envie des gens qui fait qu'il y a une profusion d'allégations de type paranormal ou bizarre dans notre société. Il y a ça certes, mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs et des facteurs notamment de marché, quoi. De marché de l'information notamment.
Bon, il y avait plein de références que tu donnais dans ta thèse que j'avais vues ou lues moi-même. Mais c'est vrai qu'honnêtement, les médias traditionnels, j'ai beaucoup de mal à les regarder parce que ça me sort par les trous de nez, quoi. La manière dont ils traitent les sujets. Alors évidemment, ce qui est marrant, c'est que évidemment, on est à l'âge d'Internet. Alors maintenant, il y a des moyens justement de créer ses propres médias. Donc on a la communauté sceptique qui va avoir sa propre blogosphère, ses propres balados, donc ses propres émissions radio entre guillemets, etc. Ce qui est super parce qu'on peut enfin avoir accès à de l'information développé autrement que dans les médias traditionnels. Mais alors évidemment là le problème c'est qu'on a tendance à prêcher à sa paroisse, c'est-à-dire que les gens doivent avoir la démarche d'aller sur les blogs sceptiques ou la démarche d'écouter les balados sceptiques, et on ne touche pas le grand public qui va préférer regarder la Starac à la télé.
Et tu sais, après, par exemple, ça, c'était l'objet d'un gros, gros débat. C'est pas tant, je sais pas si c'est encore un débat pour Henri et les copains du laboratoire. Donc, peut-être pour les auditeurs, faut peut-être que je précise un peu. Dans le monde de la zététique, il y a autant de zététiciens qu'il y a de zététiciens. Il n'y a pas un label. Mais il y a quand même des grosses structures. Il y a le laboratoire de zététique, qui lui est universitaire, auquel est adjoint une association qui s'appelle les Amis du laboratoire de zététique, avec des gens éminents comme Denis Biette, Denis Carotti, des gens comme ça qui bossent là-bas. À côté de ça, tu as une petite ribambelle de petites associations de type zététique qui sont aussi bien à Monaco que à Marseille, que dans le Languedoc-Roussillon, vers Montpellier. Il y a des petites initiatives de ce genre-là. Et puis, il y a l'OZ, au milieu de ça, qui avant était je sais pas si il faut rentrer trop dans le détail de l'historique, mais enfin, en tout cas, depuis 2003, ça reste l'association zététique la plus grosse, je crois, en France. On doit être une quarantaine de membres. Et donc, là, c'est une association. Alors que le laboratoire de zététique avec laquelle elle est souvent confondue, c'est un laboratoire universitaire qui compte beaucoup moins de membres, qui n'a pas tout à fait les mêmes démarches. Et tout ça pour te dire quoi? Pour te dire que je sais pas comment le laboratoire il le gère. Je sais qu'Henri a plutôt tendance à plus aller dans les médias parce qu'il se fait trop faire de coups fourrés. Mais chez nous, en tout cas, le débat est toujours vif, hein. À l'observatoire, là, dans l'association, t'as deux courants, on va dire. T'as le courant des gens qui rejoignent un peu Bourdieu ou qui rejoignent des gens qui disent que, en fait, dans les médias, il n'est pas possible d'avoir un débat suffisamment fin, suffisamment argumenté, avec un temps suffisant pour faire pénétrer l'idée, pour pouvoir aller diffuser d'esprit critique. Donc, inutile d'aller se casser les dents là-bas. De toute façon, les émissions qui sont regardées sont celles qui laissent le plus de place aux phrases choc, à de l'info un peu rapide, à de la caricature. Donc, il y a des gens, et moi, je fais partie de ceux-là. Je pense qu'il y a très, très peu d'émissions qui te laissent une latitude pour venir, par exemple, présenter une démarche de type sceptique. Il y a un autre courant qui dit oui, mais c'est l'occasion aussi d'aller toucher des gens qui, de toute façon, n'auraient jamais entendu le mot autrement. Et donc, ça vaut le coup, au prorata du nombre de millions de personnes qui vont regarder une émission de prime time un peu débile. Ça vaut le coup d'aller s'y greffer. Et même si on est tourné en ridicule, même si on est mis dans une scénarisation minable, même si on est coupé au montage, ça vaut toujours le coup. Moi, je suis dubitatif parce que chaque fois qu'on a dit ça, à chaque fois, ça n'a pas marché. À chaque fois, la personne qui a voulu y aller, elle s'est fait rouler, quoi. Et puis on y retourne quand même, on réessaye. À chaque fois, il y a quelqu'un qui s'y colle, mais ça marche pas. Les coupages sont tragiques à chaque fois. Tu es cantonné soit à un rôle de sceptique hargneux, rien que dans la façon dont on pose les questions, ils vont te mettre dans une case du rationaliste borné, fermé, complètement opposé à tout type de croyance et intolérant, tu vois. Donc, est-ce que ça sert à quelque chose d'aller là-bas? Je sais pas, vraiment, le débat reste ouvert. Il faudrait faire une étude, voir Est-ce qu'une émission ridicule sur TF1, la première chaîne française privée, est-ce qu'une émission où un zététicien monté, coupé au montage, est-ce que l'impact qu'il a est intéressant? Est-ce que l'impact qu'il a est plutôt positif ou négatif dans le but de donner le goût aux gens d'aller chercher de l'info critique après? Faudrait voir ça, faudrait l'étudier. Moi, j'ai tendance à croire que dans l'état actuel des choses, il y a très peu d'émissions qui permettent ça. Il y a peut-être à la radio. Tu vois, je rechigne pas à faire, ou alors sur des documentaires qui sont construits, et encore, j'ai eu des déconvenus aussi avec des documentaires, mais avec des documentaires où t'as un peu plus le temps, de parler. Mais si t'as pas le temps, si t'as pas un regard a posteriori sur le propos qui te font dire, quoi, et ben c'est le carnage à chaque fois, hein. C'est le carnage à chaque fois sur TF1, sur France 2, sur les chaînes françaises, c'est toujours pareil, quoi. Le montage est toujours bidonné.
C'est ce qu'on appelle en anglais le token skeptique. Hein. On invite l'empêcheur de rêver en rond. Et c'est vrai que dans les documentaires, on a un documentaire et puis on va juste donner 3 ou 4 quelques secondes, une minute à un sceptique. Il n'y a pas de solution facile, mais je pense qu'aux États-Unis, évidemment, il y a des gens de grande envergure, style Michael Shermer, qui ont réussi à se faire une place dans les médias. Et à ce moment-là, ça améliore les choses, je pense. Chez nous, il n'y a pas vraiment de porte-parole de la, tu vois, de quelqu'un qui soit vraiment une star de, entre guillemets, de la zététique, comme Michael Shermer ou James Randi peuvent l'être aux États-Unis, et qui font que les médias ont envie de leur donner un temps de parole un peu plus conséquent.
Alors, moi, je pense que ce serait pas très difficile de créer une star. Hein. Si je voulais devenir une star de petit écran sur cette question-là, je pense que ce serait vraiment pas très compliqué. Je garde les cheveux bien longs, je me donne une tête un peu mystique. Il y a plein de scénarisations possibles là-dessus, et puis je choisis de faire que des phrases choc, je deviens un peu truculent, tu vois, je coupe la parole, je deviens un personnage recherché un peu. Je sais pas si tu connais un peu le paysage franco-français des personnages un peu comme ça, mais c'est facile de les mimer, tu vois. Après, je me laisse pousser, ou alors si je veux prendre une autre scénarisation, je me vieillis, ou on prend quelqu'un de vieux, tu vois, on lui fait pousser sa barbe, ça devient un Hubert Reeves, le grand-père dont tout le monde rêve, tu vois. Puis tu peux avec une démarche enfin, tu vois, il faut coller. Est-ce qu'il faut qu'on se courbe pour passer sous leur fourche codine, quoi? Est-ce qu'on doit absolument prendre le risque de bosser une forme nécessaire pour devenir des interlocuteurs privilégiés des médias, sachant que cette forme nous fait perdre l'intérêt de ce qu'on a à raconter, quoi? C'est-à-dire qu'on va se retrouver à appliquer des choses qu'on dénonce. C'est ça qui m'ennuie, cette contradiction-là. C'est-à-dire que pour passer, il va falloir que je mette en avant le fait que je sois docteur. Tu vois, genre, il faudrait que j'écrive docteur mon voisin, mais moi, ça m'emmerde, ça. Mes propos, je veux qu'ils soient jugés que je sois docteur, boulanger ou plombier, si tu veux. Sauf que pour pouvoir passer, il va falloir faire la preuve d'argument d'autorité, et puis après, jouer le jeu, quoi. Devenir un singe médiatique. C'est très ennuyeux. Alors, bon, aux États-Unis, je sais pas trop comment ils s'y sont pris, hein. Les Shermer, ils gardent du style. Dawkins, c'est un peu différent. Dawkins, s'il a réussi à c'est surtout sur son combat athéiste. Mais tu vois, quelqu'un comme Onfray en France, Michel Onfray le philosophe, il a, ouais, je sais pas si le résultat est bien bon au final. Ça avait bien commencé. Et maintenant, ouais, il est dans des émissions où ce qui tient comme discours, ça tu vois que c'est adapté, quoi. C'est aseptisé un peu.
Aux États-Unis, ils ont quand même aussi Penn and Teller comme avec Bullshit ou ouais. Ils vont avoir oui, ils mettent Mythbusters, donc ils arrivent quand même à trouver des moyens. Je voudrais un peu aller dans une autre direction au niveau de la conversation. J'aimerais aussi qu'on aborde un peu parce que le contraste entre le mouvement sceptique aux États-Unis et puis alors et la zététique en France, et alors un peu aborder la question du rôle d'Henri Brock dans l'histoire de la zététique un peu, parce que moi, bon, j'interviewe maintenant plein de zététiciens, ce qui est très agréable, je dois dire, mais évidemment on me cite souvent Henri Brock et enfin tu sais bien que j'ai toujours été un peu par rapport à des gens comme les lumières un peu, enfin les grandes figures du mouvement sceptique contemporain, donc bon, on a Shermer, James Randi, Paul Kurtz, tous ces gens, Martin Gardner. En France, j'ai l'impression qu'on accorde un peu une place disproportionnée à Henri Brock, et ça m'embête toujours un peu.
Je suis d'accord avec toi. Le problème, c'est que, enfin, moi, bon, déjà humainement, c'est un type extraordinaire. Donc moi, je continuerai, en tout cas dans mon paysage à moi, à le situer à une place de choix, Henri Brock, ça c'est clair. Mais sur la littérature, il faut se dire une chose, c'est que Shermer est pas traduit, Randi, je crois pas qu'il soit traduit en français, et des Français qui lisent l'anglais dans un bouquin, qui plus est des gens qui veulent lire un bouquin en anglais sceptique, non, tu vas pas en trouver un grand nombre, hein. Et ce qui fait que les rares bouquins de type critique, franchement, il faut qu'on les écrive, il va falloir qu'on s'y mette, parce que pour l'instant, à part les bouquins de psychologie sociale sur les questions de manipulation, et à part Bayarjon québécois, quelques bouquins à lui, à part qu'est-ce que je vois d'autre? Je suis en train de regarder mes bouquins en même temps. À part aussi voilà, de Pracontal, dans son bouquin 2001, là, comment il s'appelle déjà son bouquin, ça s'appelait Imposture scientifique. On dit leçon, c'est ça, l'imposture scientifique en dit leçon. À part ça, il n'y a rien. Après, tu retrouves du scepticisme dans le courant des matérialistes des éditions Sileps et des gens qui s'y rapprochent. Là. Je ne sais pas si tu connais ces bouquins, Intrusion spiritualiste, là. La bande à Guillaume Lecointre, Dubessy, Silberstein, oui. Tous ces gens-là. Là. Boulot extraordinaire, mais boulot pointu, quoi. Boulot pointu, il faut venir un peu équipé en philosophie, il faut être capable de lire des bouquins ardus qui font 700 pages. Il n'y a pas grand-chose qui vulgarise ça. En vulgarisation simple, à part Brock, à part Bayarjon, là, il y a 2 ans, et De Pracontal, il y a 5 ans, il n'y a rien. C'est le désert, en fait. Et si, il y a 2-3 détails, il y a 2-3 bouquins détails. Je pense à, par exemple, un type qui est... Bon, le ton est assez raide, mais c'était le présentateur de la météo en France pendant longtemps, Alain Gilot-Pétré. Voilà, lui, il a fait un bouquin sceptique, mais complètement radical et un peu maladroit, mais voilà, mais qui est resté complètement oublié, quoi. Donc, il n'y a pas grand-chose. Donc, c'est ça qui donne aussi de... C'est tout dépend du contexte, quoi. Et dans le paysage français, il y a tellement rien qu'une lumière, ça se voit, quoi.
Bon, bien entendu, je suis d'accord avec toi, la situation du scepticisme en France est quelque peu, enfin, dans le monde francophone, disons, est quelque peu dramatique. C'est pas pour rien que je blogue sauvagement et que je fais un balado aussi, c'est pour essayer de bouger un peu les choses de ce côté-là. Par exemple, il y a des choses qui me perturbent toujours un peu avec Harry Brock, quoi, sa manière de présenter la parapsychologie dans ta thèse, donc t'as ce fameux passage, ce qui est une note de bas de page, mais où tu dis qu'il a arrêté de s'intéresser à la parapsychologie parce que, enfin j'ai la citation sous mes yeux, hein, donc ajoutons à cela la lassitude légitime de l'archéologue qui fouille depuis des années dans un site qui s'avère salé artificiellement, et l'on comprendra également pourquoi certains sceptiques renoncent à tort peut-être à analyser les nouvelles données venant d'un champ d'investigation attaché de fraude récurrente, et puis tu rajoutes compréhensible mais regrettable les positions d'Henri Brock sur la parapsychologie en soi arrivé à ce stade. Je lis ça, je suis un peu choqué, quoi, c'est un peu... je trouve que c'est une attitude... un peu antiseptique pour moi, je veux dire, tu vois, humainement parlant, bon, que tu prennes de l'âge, que t'aies plus envie de t'impliquer dans ce débat, ça je peux tout à fait bien comprendre, mais ne dire je vais refuser de lire la littérature parce que prétendument, enfin, il fait une évaluation de la parapsychologie que je ne partage pas totalement, qu'elle est totalement entachée de fraude récurrente, ça me paraît excessif. Enfin, ça te pose pas de problème. Enfin, d'ailleurs, tu l'as noté en bas de page, donc, à mon avis, c'est pas pour rien.
C'est pas pour cacher ça, hein. je le dis assez régulièrement, même quand je parle en public, hein, mais je me dis, où on sera nous quand on aura 55, 60 ans, tu vois? Est-ce qu'on en aura pas marre? Moi, j'espère pas, mais j'ai du mal à juger quelqu'un qui en a marre de bosser sur un sujet comme ça. Donc, je le comprends pourquoi il en a marre, et surtout, quand tu vois la diversité du champ du paranormal, la parapsychologie n'en représente qu'un petit bout, quoi. Moi, je pense que si les parapsychologues s'en donnent la peine, la parapsychologie pourrait devenir un champ scientifique, un champ de recherche, tu vois, un vrai champ de recherche. Il y a des gens qui se battent pour ça, mais plus ou moins maladroitement. Et je pense, par exemple, en France, il y a l'Institut Métapsychique, qui avait fait d'ailleurs une lecture de ma thèse assez longue, plutôt maladroite. Mais leur façon de faire, elle est vraiment triste, quoi. On a proposé plusieurs fois de collaborer avec eux pour essayer de faire le tri. Ils ont une complaisance assez grande avec des parapsychologues improvisés qui viennent dans les médias raconter n'importe quoi. Il y a tout et rien dedans. Donc, au bout d'un moment, peut-être, Henri Brock a préféré se consacrer notamment à l'archéofiction. Il a préféré se consacrer à des questions liées aux thérapies, à des choses comme l'astrologie, tu vois. Le champ est tellement vaste aussi que tu peux pas être spécialisé dans tout. Moi, on me reproche, à l'IMI, à l'Institut Métapsychique, ils me reprochent de pas me pencher sur la parapsychologie. Mais parce que ça m'ennuie, tu vois. Ça m'ennuie, je veux dire, ça demande une telle charge de travail que soit tu fais plus que ça, soit tu renonces, quoi. Et il y a des papiers de partout qui sortent. Quand tu demandes, donne-nous un bon papier là qu'on regarde de près, C'était le cas. Florent Tournus s'est collé sur un article et il l'a désossé. Ils sont collés sur un article aussi, je pense à Cécile Ursini qui s'est collé à notre article. Bon, tu vois, enfin, moi, mon but, de toute façon, c'est pas de devenir parapsychologue ou de bosser seulement sur ça. Hein. L'idée, c'est de prendre tout matériau qui relève du champ borderline des sciences pour faire de l'esprit critique. Si je vois que c'est trop compliqué dans la parapsychologie, c'est trop long, ben, je préfère suspendre mon jugement sur la question et je le traite pas, tu vois, de la même manière que sur la question du Yeti ou la question de la cryptozoologie, eh ben j'ai pas beaucoup de temps à consacrer à ça, donc je vais pas en parler, quoi. J'ai pas d'avis sur l'existence putative d'un Yeti, tu vois. Peut-être qu'il y a des bipèdes qui existent quelque part. Je suspends mon jugement parce que je n'ai pas le temps ni la volonté de faire, mais je vais pas. Par contre, je vais pas tirer un trait dessus. Et peut-être que c'est la lassitude qui explique ça chez Henri, ouais, effectivement. Je crois qu'il en a marre. Je crois qu'il en a marre de ça. Il en a marre de ce sujet-là. Moi, j'en ai pas marre, mais ça demande une telle somme de travail qu'on peut pas être spécialisé en tout. Hein. Moi, ma spécialisation, c'est de la pédagogie à l'esprit critique. C'est pas la parapsychologie, c'est ni la cryptozoologie, ni un champ bien précis. Hein. Tu vois, c'est un peu... Je fais feu de tout bois dans le but de créer de l'outillage d'autodéfense intellectuelle. Et je peux prendre même en histoire, tu vois, je suis pas spécialiste d'histoire du tout, mais tu vois, je peux prendre chez des auteurs d'histoire critique, je pense à Howard Zinn qui est décédé il y a quelques semaines là. Voilà, chez lui il y a des choses à prendre dans tous les champs, tu vois, mais je peux pas devenir un spécialiste de chaque champ. Donc je pense que c'est ça qui décourage, hein, par rapport à la parapsychologie.
D'un côté, j'entends ce que tu me dis, mais d'un autre, tu vois, enfin, je pense qu'il y a une différence entre le sceptique, je dirais lambda, qui est un peu dans la position que tu décris, et puis Henri Brock, qui est un physicien et qui a un laboratoire consacré à la zététique. Tu te dis, il a un laboratoire consacré à la zététique, il a les compétences, il peut mettre des doctorants sur ces sujets-là, et on a l'impression qu'il, par exemple, en termes de publications scientifiques, il a pas fait grand-chose, quoi. Par rapport à des gens comme Riemann, Chris French, Richard Wiseman, qui publient dans les revues de parapsychologie des recherches sceptiques qui ont été réalisées, ou ils testent des médiums, etc. Enfin, je sais pas... Bon, allez. Par exemple, pour le moment, qu'est-ce qui se fait au laboratoire des zététiques en termes de recherche? Il y a un doctorant quand il travaille là-bas?
Non, mais il faut pas se leurrer. Hein. Le laboratoire des zététiques a été créé dans une ville bien particulière, Nice, contexte pas du tout propice à ça. Et il n'y a rien, il n'y a pas de moyens. Il y a une personne titulaire, c'est lui. Et lui, il passe son temps à enseigner, tu vois, il fait un peu comme moi, quoi. Il passe son temps à enseigner, il bosse sur ses enseignements de physique et sur ses enseignements de zététique. Et faire de la recherche, ça prend du temps. Et si tu n'as pas les moyens de le faire, il y a une bibliothèque, il y a des gens qui viennent prélever des morceaux pour faire des choses. Il y a très peu de travail de publication qui est fait, ouais. C'est un manque de personnes, quoi. Mais tu vois, j'aimerais bien créer un laboratoire équivalent à Grenoble et puis y mettre du monde dedans. On est en train de travailler sur une forme de collectif en ce moment, consacré à l'esprit critique et les sciences, mais parce que il est presque impossible de créer un laboratoire sur ça. Il n'y a pas de moyens. Hein. Henri, pour faire survivre son labo, il était obligé de racler des fonds de tiroir, de mettre de l'argent de sa poche et d'aller chercher du mécénat. Tu vois, il n'y a pas de moyens, quoi. On a bien moins de moyens au laboratoire que peut en avoir l'Institut Métapsychique, par exemple. Et c'est triste, il faudrait que ça change, ouais. Il faut qu'on se batte pour ça, mais pour l'instant, je peux pas lui en vouloir de pas faire de la recherche plus approfondie que ça et pas publier, vu qu'il est tout seul à ramer, quoi. Faut aller voir, hein, le laboratoire, c'est pas grand, et c'est tout fait à la force du poignet, quoi. Ça a pris du temps, c'était 15 ans de travail en eau trouble pour arriver à créer une structure au début des années 90, et la structure, elle est minuscule, elle est petite, elle n'a pas un radis, quoi.
Je crois qu'on a peint une image de la situation en France assez dramatique à travers toute la conversation, quoi.
Ouais, non, c'est dramatique, oui et non, j'y vois pas un drame, j'y vois un constat, tu vois, c'est un constat, il faut partir de ce constat-là et voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je crois qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui de plein de points de départ différents, appliquent une démarche sceptique. Je te dis, tu peux aller voir chez les matérialistes, les philosophes matérialistes, tu vois chez des philosophes comme Bouvresse, tu vois des historiens qui font un travail. Tu vois, en ce moment, il y a un collectif de vigilance sur les mésusages de l'histoire notamment dans le champ politique. Bon, c'est presque les mêmes outils qu'ils utilisent, là, les Noiriel, Laurence de Coq, tous des noms de gens qui sont pas des vieillards, tu vois, qui sont des gens qui sont actifs et qui, dans leur coin, tendent vers ça. Donc, il suffirait peut-être qu'on rêve des fois, tu vois, avec ma collègue Géraldine Fabre, des fois on rêve de faire des assises de l'esprit critique en France. Il y aurait vraiment moyen, on pourrait une semaine non-stop organiser des conférences presque, tellement il y a des gens qui travaillent sur ça. Mais il n'y a rien qui les fédère en fait. Il n'y a rien qui existe pour l'instant qui les fédère. Mais le constat n'est pas si noir que ça, hein. Et quand bien même il serait noir, ça n'empêche pas qu'on puisse se retrousser les manches, hein. Je vois qu'il y a des gens, mais tu as déjà invité des gens qui ont commencé à créer dans leur coin des cours un peu consacrés à l'esprit critique. Sébastien Pommier, Denis Carotti aussi, Yann Marseille, il est en train d'en monter. Il y a des gens comme ça de ci, de là qui arrivent à incruster des cours spécifique à ça, ou faire de l'éducation populaire. Même chez les, par exemple, chez les Petits Débrouillards, qui est une association d'éducation populaire, tu commences à avoir une inflexion de type sceptique. Et ça fait toute une petite nébuleuse, tu vois. Elle n'est pas coordonnée, mais il y a une petite nébuleuse de gens qui sont prompts à travailler à ces questions. Il suffirait de les fédérer, quoi. Et puis, c'est vrai qu'il y a un manque de moyens assez dramatique. Moi, c'est du militantisme, hein, presque, hein, qui m'a fait faire ça. Hein. Ma thèse, je l'ai faite sans bourse. Hein. C'est aussi pour ça que faut avoir le moral, hein. Quand tu travailles la nuit et la journée t'écris, il n'y a pas beaucoup de vocations qui peuvent naître de ça, hein, s'il n'y a pas de moyens mis en œuvre pour ces questions-là.
Au niveau des points positifs, maintenant le James Randi Educational Foundation organise The Amazing Meeting en Europe. Donc l'année dernière, il y a eu le premier en Angleterre, et l'année prochaine, enfin cette année, donc en 2010, il y aura un nouveau en Angleterre, et ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être un TAM en Suisse, donc on peut espérer que ce genre d'initiative par le GREF un peu déborde sur la francophonie, particulièrement s'ils organisent quelque chose en Suisse, ça peut avoir un impact.
Ouais, ça pourrait, hein. Ça pourrait, mais de toute façon, on a du matériau en France, hein. Il y a du monde, hein. Il y a des gens pour bosser sur ça, mais il faudrait qu'on se coordonne et puis que chacun détourne un peu, tu vois, un peu comme les gens qui sont des chercheurs en chimie et qui voudraient bosser sur un sujet, mais on ne leur donne que de l'argent pour bosser sur des cosmétiques, et ben ils détournent une part de l'argent qui leur est donné pour bosser sur des sujets à eux. Ben, je pense qu'il y aurait pas mal de gens qui pourraient le faire, ça. Mais il faudrait qu'on le coordonne. On va essayer de monter ce collectif-là. Peut-être que ce collectif servira à ça, hein. On a trouvé un nom. Bon, ça n'existe pas encore, mais le collectif a déjà un nom. Il s'appelle le Cortex, collectif de recherche transdisciplinaire, esprit critique et science. Si tu veux un jour y contribuer, ce sera avec grand plaisir.
Ouais, tu peux me compter dedans, je crois. Sur cette note un peu positive, on arrive à la fin de l'interview, donc merci d'être venu sur le balado.
Écoute, bravo à toi en tout cas, hein. Bravo pour tout ce travail, et c'est plaisant, hein. C'est très plaisant. Continue, hein, vraiment, tu crées, faut créer du buzz.
Nous voici arrivés à la fin de l'épisode. La semaine prochaine, je vous proposerai une interview de Phil Ozoff, qui est l'auteur d'un blog qui s'intitule « Les réflexions de Phil Ozoff », qui est consacré aux sujets de société, au scepticisme scientifique et à l'éthique utilitariste. Et nous aborderons différents sujets, dont, entre autres, la relation entre le scepticisme et la philosophie, ainsi que, effectivement, l'éthique utilitariste. Je vous rappelle qu'il existe sur Wikipédia un projet scepticisme rationnel. Si vous êtes sceptique et que vous participez à Wikipédia, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le projet scepticisme rationnel et à contribuer aux diverses pages de Wikipédia francophone consacrées au scepticisme. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la semaine prochaine. Sceptiquement vôtre.
Hi, I'm Dr. Stefan Soyka for Médecins sans Médecine, or Doctors Without Medicine. Médecins sans Médecine is an alternative therapies crisis response organization. Our dedicated team of fully certified healers from a diverse range of disciplines, like iridology, color therapy, aura balancing, and ear candling, are on hand 24/7 around the globe to deal with natural disasters such as the devastating earthquake in Haiti, the Indian Ocean tsunami of 2004, or man-made disasters such as the horrific conflicts in Afghanistan, Congo, and the Niger Delta. Most of you would have already heard of Médecins Sans Frontières, but their so-called medicine is simply not enough. Médecins Sans Médecine provides alternative, complementary healthcare to the crushed, stabbed, shot and tortured. The first thing we do when we enter a disaster zone is a patient caregiver consultation. For $300, we take a multidisciplinary approach to triage to ensure a full and accurate diagnosis. Patients are usually brought to us in a terrible state, so the first thing we do is pray to the great Archangel Raphael for the patient's speedy recovery. We then move into some Eastern healing chanting, invoking the full spectrum of spirit beings to comfort and protect the victim. A magical white light of well-being is then cast upon the bleeding and battered subject, covering any leaking chakras and plugging any aura holes with a protective spiritual spack filler. If possible, we then turn the patient immediately on their side and perform an emergency ear candling to eliminate any toxins that might have entered the body through the gaping wounds and or bullet holes. It is essential during such emergency response treatments to use ear candling drip wax protectors to avoid piercing the chakra-protecting white light capsule. Triage is complete after a full homeopathetic, iridological, psychic, mind-body herbal report is created on some aromatherapy-infused rainbow-coloured paper with affirmations at the bottom, documenting the full extent of the victim's wounds and ailments. They might also, through remote viewing, provide psychic information about their friends and relatives in neighbouring villages, where we might even solve a few unsolved crimes of the last 500 years. A typical triage patient would present with muscle tightness, tiredness, low energy levels, or a sluggish liver in need of a good cleansing. Typically, as well, their bodies, limbs, and skulls would be riddled with shrapnel, with gaping wounds down to the bone, or even partially dismembered. At this point, the Médecins Sans Médecine complementary health practitioners would go into full ER mode, with our patented field hospital homeopathy kit, scrapings of the wound giving shrapnel, or in the case of the Haitian earthquake victims, ground up concrete bricks, would be diluted down to extreme healing levels, instilling in the water the total memory of the bomb or building collapse that caused the ailment, drawing the healing power of the body out through a powerful, miraculous, yet impossible to scientifically demonstrate homeopathetic action. Through sheer serendipity, the water we use in such disaster areas is usually also riddled with botulism, cholera, E. coli, typhoid and salmonella, so we can treat a whole range of diseases with a one single remedy. From homeopathy, we move to acupuncture, often gaining direct access to the qi meridians via the open wounds, which only magnifies the effect on the patient, as is clearly noticeable in their facial expressions. We then install magnetic bracelets on whatever remaining limbs there are, and that magnetic healing is again magnified through any metallic objects that are still lodged within our client. It is often at this time that the whole family of our customer comes into the Médecins Sans Médecine Crystal Marquee to join us in prayer to as many angels as we can think of. At this critical moment in the patient's destiny, a full tarot reading and astrology star chart is done. If the patient is still alive, they are moved to the Reiki lounge where our Reiki masters peel back the white light energy orb and channel universal healing power right where it's needed, at the spurting severed arteries. Then it's time for a full detox with 1-2-3 gut flush and the application of the LifeWire healing wand at any exit wounds. A bit of aromatherapy, a couple of drops of bark flower remedy under the tongue, and the Médecins Sans Médecine healing process is complete. Although we are swimming in cash from billing all our treatments directly to the patient's families in US dollars, guaranteed by the World Health Organization, we do ask for your support to let Médecins Sans Médecine continue our vital work in the world's disaster areas. Don't trust the health of millions of victims of war, disaster and famine to Médecins Sans Frontières, who rely solely on science and medicine and are nothing more than a marketing arm of the big pharmaceuticals. At Médecins Sans Médecine, we don't need medicine. We need faith, magic, and a shitload of money to get the job done.